Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, c'est avec l'écrivain Baptiste Terry Gilbert que nous allons passer une petite heure. Né en 1999, Baptiste est incontestablement l'écrivain de l'intime, de la modernité, une écriture très politique, mais aussi du refoulement et des LGBT-phobies, ainsi que de la brutalité, bien sûr, qu'elles peuvent engendrer. Avec Baptiste, justement, nous reviendrons sur son enfance, sa scolarité chaotique, son enfance à Marseille aussi, ses premiers romans, bien sûr, à savoir Pas dire, Lésion et Là où les trottoirs s'arrêtent aux éditions Blast. Cette semaine, c'est Baptiste Terry Gilbert qui passe une heure avec nous.
Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Baptiste, tu connais le principe du podcast, on va remonter le temps. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, de ton enfance?
Alors on va bien remonter alors. Je crois qu'un des premiers souvenirs, je pense que c'est un peu une fiction, mais en même temps, c'est pas non plus une fiction totale. Je pense que c'est à l'océan. Je dirais 3-4 ans. Et c'est ce souvenir des immenses vagues. Moi, j'ai grandi au bord de la mer, mais de la mer Méditerranée. Donc, c'est pas l'océan, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes vagues. Et de cette première découverte de l'océan et de ces immenses vagues qui se cassent sur le sable. Une impression d'immensité que j'ai toujours envie de retrouver, parce que je retourne à l'océan tous les étés, en réalité. Et à chaque fois, je suis déçu, parce que, bien sûr, quand on est enfant, on exagère. Et donc, pour moi, les vagues font 15 mètres, mais en fait, elles font pas 15 mètres. Elles peuvent faire 15 mètres, mais pas quand j'y vais, en tout cas.
Surtout peut-être pas en Méditerranée.
Non, c'est certain. Donc, ouais, je pense que mon premier souvenir Le premier souvenir, là, qui me vient, en tout cas, comme ça, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Souvenir d'enfance seul, accompagné, en famille?
Alors, si c'est celui-là, c'est en famille. Parce que, bien sûr, à 4 ans, j'allais pas à l'océan tout seul. Donc, c'est en famille, ces premières vacances où on traverse la France d'est en ouest en voiture, tous ensemble. Ouais.
Vacances heureuses, un bon souvenir?
Oui, oui. Tous les souvenirs à l'océan sont bons, ouais. En ce qui me concerne, oui. Et les souvenirs familiaux aussi, donc ça aide.
Quelle enfance il a, le jeune Baptiste? Là, tu as dit que tu as 3-4 ans, c'est ça?
C'est marrant parce qu'il y a, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que, à la fois donc très entouré, c'est-à-dire, je vais à l'océan en famille avec mes trois frères et sœurs, ma mère, et puis, et quand même, j'ai toujours, quand j'y repense, à ces vacances-là, comme un souvenir aussi de solitude, quand même. C'est-à-dire d'être toujours un peu seul sur ces plages, d'être seul ou incompris, je sais pas, ou les deux, mais voilà.
Et pourtant, entouré.
Ouais, entouré, mais...
T'as pas réussi à mettre vraiment des mots sur cette solitude ou sur cette incompréhension encore?
Si, je crois. Je sais pas, c'est marrant ce truc hein, de solitude entourée là, mais...
Mais comment tu l'expliquerais ce sentiment maintenant, avec le poids des années évidemment, comment tu l'expliquerais ce sentiment là? Une certaine incompréhension?
Voilà, c'est ce terme là que j'allais utiliser à nouveau, c'est le terme d'incompréhension, ouais.
Différent?
Oui, voilà. Je pense que c'est assez peut-être basique, voire simpliste, mais en réalité c'est ça. Ouais, il y avait un. Je pense que l'océan, c'est marrant qu'on commence là-dessus parce que c'est vraiment assez important en fait.
C'est toi qui as commencé là-dessus.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est assez. Comment on pourrait dire Ça concentre beaucoup de choses, voilà. Mmh. C'est à la fois galvanisateur et à la fois ça condense beaucoup de choses en fait, cet endroit et cette période. Mmh. Parce que l'océan, c'est aussi le moment et l'endroit. Quand je dis le moment, parce que je suis allé que l'été.
Ouais.
Voilà. Et l'endroit, parce que c'est les Landes. C'est la côte ouest de la France, on pourrait dire. Mmh. C'est le moment et l'endroit du premier désir aussi. C'est-à-dire de ces immenses plages de sable. Et de enfants, pré-ados, ados, de ces dizaines de corps qui se baladent là sur cette plage, et de la compréhension de ce désir progressive, et de la compréhension comment dire, de la réalisation que ce désir n'est pas celui de tout le monde, parce que ben moi, jeune garçon, jeune mec, puis mec, on va dire, bah, c'est pas les filles en maillot de bain quoi, que je regarde et qui m'intéressent. C'est les surfeurs hollandais. Et, parce que là où je vais particulièrement, il y a énormément d'Hollandais, de surfeurs hollandais, et de groupes comme ça d'Hollandais qui débarquent en car et qui restent pour tout l'été, pour les camps de surf. Et donc voilà, c'est ces surfeurs hollandais, blonds, grands, musclés, aux yeux bleus. Enfin bon, c'est un cliché total, hein, mais, mais le premier désir, c'est ça, ouais.
Tu mets des mots sur ce désir à quel âge? Peut-être pas à 3-4 ans, un peu plus tard.
Oui, effectivement, je dirais quand même déjà 8 ans, ouais. 7-8 ans, je pense pas qu'on puisse appeler ça du désir, mais...
Quelque chose
de l'ordre de la projection, de...
Attirance?
Même pas attirance, mais de... Alors, j'allais dire plutôt quelque chose, même esthétique, de l'ordre de la beauté, c'est-à-dire, ça c'est beau, en fait, voilà. Et je pense qu'après 10, 11, 12, 13 ans, là, il peut avoir quelque chose du registre de l'attirance, puis clairement du désir et ce qui s'ensuit, quoi. Mais,
ça participe, ça, à ce que tu appelais il y a quelques instants l'incompréhension, peut-être, ou ce petit sentiment de solitude ou de différence?
De décalage, oui, parce qu'effectivement... Dans le discours ambiant, global, voilà, comme je disais, le désir, il doit se porter pas sur eux, mais sur elles.
Oui.
Et donc, ce désir-là que je ressentais très profondément, il était encore inexprimé, voire inexprimable. Il était dans ma tête uniquement et dans mes yeux, dans mon regard, qui se dirigeait plutôt vers là-bas et pas vers là-bas.
Au sein de ta famille, on va s'en rendre compte à cette époque-là de ce désir-là, de cette peut-être différence.
Je pense. C'est-à-dire qu'on va pas s'en rendre compte dans le sens où ils vont pas me confronter là-dessus.
D'accord.
Mais par contre, quand je vais moi parler de ça plus grand,
plus tard,
il y aura des mots de mes sœurs ou voire même de ma mère, on savait déjà, enfin, c'est ridicule, de ma sœur qui me dit « mais moi, depuis que t'as 7 ans, j'ai compris ». C'était pas une grande nouvelle, quoi.
Ouais. Donc, pour mettre des mots, le coming out, c'est plutôt, j'imagine, auprès de ces personnes-là, bien passé.
Oui. Oui, et même le terme de coming out, d'ailleurs, je sais pas si vraiment il s'applique à mon cas.
Tellement c'était évident.
Alors deux choses, tellement c'était évident et tellement moi la première fois que j'ai parlé de ça à ma famille, c'était pas pour leur dire bon voilà je suis gay, j'en sais rien. C'était plutôt pour leur dire bon voilà personne me comprend et je me fais emmerder. Ah mais pourquoi? Mais parce que en fait je crois que j'aime les mecs et de ça découle beaucoup de choses. Et donc voilà je.
C'était même pas vraiment un coming out comme on peut en voir, ou en tout cas très scénographié, théâtralisé presque parfois. Non, c'est quelque chose qui faisait plus référence à une problématique que tu tentais de résoudre.
Exactement, voilà. Effectivement, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on peut se faire, qui parfois est juste, hein,
oui,
et les gens vivent ça comme ça.
Et chacun le vit comme il veut.
Exactement, et non, voilà, c'est propre à chacun, chacune, et moi, c'était plus ça, exactement comme tu l'as dit, c'est-à-dire, il y avait cette problématique de, comment dire, il y avait une problématique qui venait de là, et je savais à ce moment-là qu'elle venait de là, et je savais aussi, heureusement, que c'était pas à cause de moi que j'en étais pas responsable, etc. Mais c'est comme ça, et je l'expliquais comme ça, et voilà, c'était, il fallait que j'en parle à ma famille, parce que j'en souffrais quand même un peu, et donc c'est comme ça que le sujet est venu sur la table.
D'accord.
En fait, effectivement. Donc c'est marrant, effectivement, il y a ce double aspect, comme tu as souligné là. Voilà, c'était à la fois une évidence, mais à la fois c'était pas le sujet. Enfin bon, voilà.
Voilà, c'était pas le sujet. Revenons un petit peu en arrière, quand tu as 6, 7, 8, 9 ans peut-être, quand tu as des rêves à cette époque-là, peut-être des rêves professionnels, tu t'imagines peut-être évoluer dans la vie? Tu as déjà des envies?
Alors, il y a la question qu'on pose à tous les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Ouais.
Et moi, je m'en souviens encore très nettement. Pourtant, j'ai un problème avec mes souvenirs, hein, quand même. Hein.
Ah bon?
Ouais, vraiment. Mais J'ai du mal à me souvenir de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'oublie, beaucoup de choses que je dois écrire justement pour permettre d'y revenir ensuite.
D'où peut-être, on y reviendra, mais l'écriture.
Ah oui, clairement, c'est tout à fait lié et on pourra y revenir. Et donc j'ai l'impression d'avoir très peu de souvenirs de mon enfance et de mon adolescence. Mais donc, il y a cette question qu'on pose aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je m'en souviens très bien de
Et
ça.
on te l'a posé.
Et on l'a posé, et je m'en souviens très bien de ma réponse alors. C'était détective privé. Alors,
ah ouais?
je ne sais pas d'où ça vient. Il y avait un peu aussi cette plaisanterie avec ma grand-mère. Je pense qu'on devait regarder ses émissions.
D'Éric.
Voilà, ou ses émissions, voire même ses séries, effectivement, d'Éric ou autre, à la télévision. Et détective privé, ouais, il y avait. J'étais fasciné, mais pendant plusieurs années, hein, par ce métier. Mais voilà, vraiment, pas flic, pas enquêteur, mais plutôt. Un truc un peu...
Borderline, peut-être.
Ouais, il y a un côté marginal hein,
ouais.
Chez le détective et un côté aussi hyper désuet. En fait, c'est très Modiano, quoi, ce détective privé, là. C'est très...
Et puis, ça gagne pas bien sa vie, un détective privé. C'est
oui.
En fonction des affaires, en fonction de tout ça. Donc, il y a peut-être quelque chose encore, qui est encore plus fort qu'un policier dans l'imaginaire collectif chez le détective privé. Peut-être.
Oui, parce qu'il est indépendant, il est seul... Il est habillé un peu bizarrement quand même, il y a aussi
ouais.
Tout ce code vestimentaire de l'impair. Il n'a pas de vie, oui. Bon, et puis l'enquête en fait.
Ouais.
Il va chez les gens, il enquête sur la vie des gens, il fouille, etc. Moi, je rapproche
et il écrit,
ça,
et il écrit, voilà.
Ouais, il écrit, oui. Et franchement, je rapproche ça vachement de l'écriture en fait.
Ouais.
Le détective privé et l'écrivain, il amasse des notes, il archive, il rend des rapports, il travaille sur le réel.
Ouais.
Il y a quelque chose de l'ordre du scénario aussi, des protagonistes, des, il y a quelque chose comme ça, il y a déjà, je pense, et là je parle ouais, de 7-8 ans. Hein,
ouais. On va avancer un petit peu dans le temps, les rêves évidemment vont changer, mais on va revenir sur la scolarité. J'ai lu beaucoup pour qualifier ta scolarité de chaotique, c'est vrai?
Oui, alors bon, on va
chaotique,
revenir à 7-8 ans, alors un peu, à ce moment-là, moi j'étais le meilleur élève de mon école, quoi.
C'est pas chaotique ça.
Effectivement, en primaire, j'étais plutôt ouais, un très bon élément en fait.
Ouais.
Voilà. Et puis il y a l'arrivée au collège où ça dégringole un peu, on va dire 6e, 5e. Je reste
ouais.
Bon dans les matières qui m'intéressent et très mauvais dans les matières qui ne m'intéressent pas.
Mais ça s'équilibre.
Ça s'équilibre du coup, donc personne ne m'embête. Aujourd'hui, je veux dire que c'est un peu fort. Quoique je sais pas, mais il y a quelque chose où en tout cas la scolarité n'a pas été facile, ouais, où j'ai pas du tout aimé ça. Ça n'a pas du tout été un lieu agréable pour moi, l'école.
Alors, pas agréable, pourquoi? À cause des matières, des profs ou de l'environnement, les autres élèves?
Un peu tout ça à la fois.
Ouais.
Y a plusieurs choses. Déjà, je m'ennuyais terriblement en fait, hein, à l'école, au collège et au lycée. Je savais pas trop ce que je faisais là. Je m'ennuyais vachement. L'ambiance n'était pas particulièrement négative. En fait, on va dire, avec les camarades, etc., je me sentais, pour le coup, seul. Surtout, c'était ça. J'avais des amis, mais... je me répète un peu, mais je ne savais pas trop ce que je faisais là, en fait. Hein. Vraiment, j'avais pas envie d'y aller. Et de plus en plus, j'avais de moins en moins envie d'y aller, voilà, en fait. Donc, j'ai fini par moins y aller, concrètement. Et donc, au lycée, j'ai séché les cours. J'ai commencé à sécher les cours, à beaucoup moins aller en cours ou aller que à ceux qui m'intéressaient un minimum. J'arrivais tout le temps en retard, c'était un grand combat avec mes parents pour que je me réveille le matin.
Tu es plutôt un gros dormeur ?
Je suis plutôt un gros dormeur, donc ça n'aide pas, je ne suis pas très matinal. Toujours aujourd'hui, alors que j'ai 24 ans, bientôt 25. Mais, c'était dur pour moi d'aller à l'école. Et dès 13-14 ans, je voulais partir hein, en fait,
ouais.
De l'école et de Marseille, mais aussi de l'école. Et très vite, mon objectif, ça a été bon. Ok, il faut que je passe le bac, parce que le bac, c'est un passeport pour la fac. Et la fac, ça veut dire partir, en fait. Partir de l'école, mais aussi de Marseille. Parce que c'était une évidence, pour moi, la fac, ça allait être ailleurs.
T'as dit le mot, t'as dit le nom, t'as dit Marseille. Je voulais y venir. Marseille, c'est une ville qui ne laisse pas indemne, qui ne laisse pas indifférent.
J'ai jamais vraiment quitté Marseille, même si j'en suis parti. Hein.
Ouais.
Je vais pas faire semblant et... Pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un de mes sujets préférés, je pense, de conversation et pas que.
Et d'écriture.
Et d'écriture. Il y a une phrase comme ça, qui est un peu presque un adage. Ma mère l'a dit parfois. Marseille, c'est une ville qu'on adore détester ou qu'on déteste adorer. Comme tu dis, c'est pas du tout. C'est une ville qui ne laisse pas du tout indifférente. Et tu as aussi utilisé le terme indemne. Et je pense que c'est une ville qui ne laisse pas du tout indemne non plus. Moi, elle m'a laissé des marques. Beaucoup de marques positives, beaucoup de marques négatives aussi. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus, je pense. C'est une ville tellement compliquée, dans tous les sens du terme, tellement complexe.
Parce qu'elle est multiple.
Elle a des millions de facettes. C'est une immense ville, mais dans le sud de la France, c'est une ville portuaire. C'est une ville qui est le théâtre d'énormément de violences sociales, politiques. C'est une ville insaisissable aussi, absolument incompréhensible.
Elle est difficilement définissable. On ne peut pas la qualifier. On peut dire qu'il y a un esprit parisien, par exemple. On peut difficilement qualifier un esprit marseillais. Je me trompe ?
Non, c'est vrai, c'est pour ça d'ailleurs que j'écris dessus. C'est une tentative de définition, parce qu'il y en a peu en plus. Je pense que la culture en général s'intéresse très peu à Marseille. Elle s'intéresse récemment parce que la ville est maintenant revêtue d'un attrait particulier, notamment par les gens qui s'intéressent à la culture et aux livres et aux films, etc.
Et des séries.
Et des séries, c'est vrai. Oui, quand je dis film, j'englobe aussi séries d'ailleurs. Hein,
Et elle t'a laissé quoi, Marseille ?
Comme je disais, c'est un de mes sujets, et voilà, celles qui me connaissent, c'est un de mes sujets préférés de conversation et d'écriture. Et pour autant, mais comme beaucoup de Marseillaises et de Marseillais, j'ai vraiment du mal à en parler, ou en tout cas, je ne suis pas satisfait de la manière dont j'en parle. Je vais quand même essayer au maximum, mais c'est marrant, là, je réalise pendant cette discussion avec toi, ça, là. Quelle trace elle a laissé, ben ouais, comme tu disais, 20 ans de vie, quoi. J'y suis né dans le même appartement où mes parents vivent toujours, hein. J'y ai grandi, j'ai passé toute ma vie en fait dans cette ville, j'ai l'impression. Et comme je disais, j'en suis jamais réellement parti. C'est-à-dire même quand j'en suis parti à 18 ans, je revenais tout le temps. Je revenais voir ma famille, je revenais voir les gens que j'y avais laissés. Parce que personne ne part de Marseille, personne ne part véritablement de Marseille.
On revient toujours à Marseille.
On revient toujours à Marseille. C'est tellement dur d'en partir et tellement facile d'y revenir. Et il y a tellement de gens qui restent, il y a un tel appel, il y a ce soleil, cette mer qui appelle constamment à ce retour. Et j'y retourne malgré moi. Parfois j'ai ce désir un peu fou de me dire non mais là c'est terminé, j'y vais pas. J'y vais plus pendant 2 mois. Allez, je me donne 2 mois. Pendant 2 mois, j'y vais plus. Et puis, bon, bah, je prends ma carte de train et je prends 2 billets et j'y passe une nuit ou deux. Et ben voilà, je revois le soleil et je comprends pourquoi je reviens. Parce que je peux sortir mes lunettes de soleil de leur étui, ce qui est rare à Paris ou ailleurs où j'ai pu courtement vivre. Mais voilà, je ressors les Ray-Ban, je les mets sur mon nez et je me dis merde, bah oui, c'est pour ça que je reviens, parce que dès qu'on sort de la gare, il y a cette gare absolument fabuleuse avec ce parvis fou où on voit toute la ville, où
Saint-Charles.
On voit tout ce soleil qu'est la gare Saint-Charles, oui, effectivement. Et on est ébloui, toujours. Bon, parfois il pleut 5 jours par an. Mais tout le reste de l'année, on est ébloui et c'est cet éblouissement-là qui ne laisse pas indemne non plus et qu'on cherche à retrouver, mais dans un rapport presque sadomasochiste, en fait. Parce que dès que j'y reviens, au bout de 2 jours, j'ai envie de tuer tout le monde, en fait. Mais tout m'exaspère. Et je commence à râler et à dire à ma mère, mais c'est insupportable, cette ville, mais on l'aime quand même. Et on y revient, et parfois on y reste.
C'est facile de se découvrir gay à Marseille et d'y grandir et de se développer, de s'assumer LGBT à Marseille.
Moi, j'y étais dans une période précise. Je pense que maintenant, ça a changé. C'est même pas que je pense, que j'en suis quasiment certain. Que maintenant, grandir gay, LGBT à Marseille, c'est très très différent de...
C'est très très dur ou c'est plus facile ?
Ah, je pense que c'est bien plus facile aujourd'hui, oui, oui.
Ah, ouais ?
Ah oui, oui, je pense que c'est bien plus facile aujourd'hui, pour plein de raisons que je vais évoquer juste après, je pense. C'était pas un calvaire, je vais pas faire... Je vais pas dépeindre un tableau qui pourrait plaire à certains, d'ailleurs, de grandir gay à Marseille dans les années 2000-2010, c'est un calvaire. Mais ça a été très difficile. C'est une ville méditerranéenne, c'est une ville du sud, du sud-est. Moi, je me suis découvert gay pendant, j'allais dire, c'est marrant, ça allait sortir comme ça, mais pendant les années Taubira, c'est-à-dire les années où l'homosexualité était un sujet public, était un sujet de débat public.
Donc, tu as vécu les débats du mariage pour tous.
Complètement et complètement intimement. Ces débats du mariage pour tous, effectivement. Et ben, je suis né en 99, et c'est 2012-2013, donc ben, j'avais 13, 12, 13, 14 ans. Donc, je les ai vécus intimement parce que c'est de moi dont on parlait dans le JT, c'est de moi dont on parlait dans les repas familiaux, à l'école évidemment, parce que c'est là où aussi les gamins,
Discussions étaient les plus vives.
les discussions étaient vives et les gamins et ben, viennent à l'école avec les discussions qu'ils entendent chez eux. Et voilà, en fait, à la télévision, à la radio, sur les bandeaux, en bas des chaînes d'infos, c'est de moi intimement dont on parlait, en fait. Et
Mais comment tu l'as vécu?
Je sais pas. Je sais pas
C'est
quoi.
dur comme question.
Mais oui. Et en plus, là, j'ai un peu généralisé à partir de ta question de Marseille. Je parle peut-être de quelque chose que beaucoup, sûrement de personnes de mon âge, de ma génération, ont vécu. Donc, peut-être que. Allez, je prends un peu de liberté. Je vais, enfin, un peu de liberté, je sais pas, mais je vais revenir sur Marseille. Donc, parce que. C'est. Comment dire? Marseille, c'était particulier quand même. Il y a donc, je vais revenir là-dessus, ouais, cette ville du Sud, avec une forte culture méditerranéenne, où l'homosexualité est omniprésente, elle est partout. C'est-à-dire, on a quand même le David de Michel-Ange, qui est sur la plage principale, la plage la plus populaire de Marseille, qui est le rond-point du David, et Borély. L'escale Borély, qui est cette plage artificielle créée il y a 30-40 ans de mémoire, où tous les Marseillais vont. Il y a un mec à poil, quand même, le David de Michel-Ange, qui est central, qui est un monument marseillais, en fait, et qui, pour moi, une icône homoérotique, voire une icône homosexuelle, en fait. Je le répète, mais il y a un mec à poil, hyper bien foutu, une icône grecque, absolument sublime. Que tous les Marseillaises, tous les Marseillais voient en fait
Ils connaissent.
et connaissent pour au moins 4 mois de l'année quand ils vont à la plage, pour celles et ceux qui vont à la plage en tout cas. Et il y a ce paradoxe-là c'était une ville profondément homophobe, où c'est pour moi là où se situe ce paradoxe, c'est que pour moi l'homosexualité est omniprésente, mais elle est cachée, elle est confidentielle, elle reste dans le domaine de l'intime et du privé, ou dans le domaine du symbole. Elle n'est pas dans le discours, elle n'est pas dans l'apparence, elle n'est pas dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de mecs, de meufs qui se tiennent par la main dans la rue, ça n'existe pas encore quand je suis moi ado.
D'accord. Et maintenant, ça existe.
Ah mais complètement. Il n'y a pas de lieu de socialisation. Si, quand je dis ça, évidemment, là je m'attirais les foudres. Il y a des lieux de socialisation, il y a des bars, il y a des boîtes, mais
Ouais.
quand on est ado, c'est pas là où on va. Et il y a des saunas, et d'ailleurs.
Et c'est pas là où on va non plus, quand on est ado.
Non, effectivement, et là, j'ai pas non plus envie de dépeindre une ville où l'homosexualité serait que ça et serait inexistante, parce que c'est pas vrai. C'est une ville qui a des liens profonds, en fait, avec l'homosexualité et même avec l'histoire homosexuelle. Il y a eu ACT UP, Bouches-du-Rhône, quand même. Il y a eu ACT UP à Marseille, il y a eu une branche d'ACT UP à Marseille. Il y a plein de lieux d'archives, plein de lieux de lutte à Marseille, profondément liés à l'histoire des luttes homosexuelles françaises. Donc je veux surtout pas effacer ça. Là, je parle uniquement de vécu, et dans mon vécu d'adolescent PD marseillais, il y a une immense solitude et une immense invisibilisation de ça. C'est-à-dire que ça n'existe pas, en fait. L'homosexualité n'existe pas. Et pour moi, l'homosexualité, elle était ailleurs. Et elle était notamment dans ces séjours que je faisais à Paris pour aller voir mes sœurs, où là, elle était à mes yeux omniprésente. Parce que je me baladais dans les rues, seul ou accompagné, et elle était sur des affiches, elle était dans la rue concrètement, parce que des gens se tenaient par la main, parce que des gens étaient dans des terrasses de café, parce qu'il y avait des drapeaux, parce que c'est bête, mais ça passe par là.
Il y avait une sorte de manque de repères finalement, de modèle, de rôle modèle à Marseille. C'est ça. Il manquait ça, cette visibilisation de l'homosexualité.
Oui, complètement de repères. Je pense que plus que de visibilisation, qui n'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, mais de repère, de lieu. Et c'est en ça où ça a changé. C'est que maintenant, parce que cette ville s'est embourgeoisée, parce que cette ville a eu un attrait avant, pendant, puis après le Covid, particulièrement, y a d'autres personnes qui y vivent, qui ont amené d'autres choses, des choses très positives aussi, à mon sens, d'autres choses négatives, parce que l'embourgeoisement ne va pas qu'avec des bonnes choses, à mon sens en tout cas. Et maintenant, il y a beaucoup de repères. Et j'ai toujours un étonnement, et c'est marrant, avec un peu de colère, je pense un peu d'amertume encore, quand je vois en plein Courjulien des drag queens qui se baladent un samedi soir, alors que dans ce même Courjulien, je me faisais emmerder. Et ce Courjulien-là, je l'évitais en fait. Je passais par des rues parallèles, parce que je savais que je pouvais me faire emmerder, et je savais que des amis se faisaient emmerder. Et maintenant, de voir ce quartier-là, à côté duquel j'ai grandi, parce que moi j'ai grandi et mes parents vivent toujours en fait à 5-10 minutes du Courjulien, de Notre-Dame-du-Mont, qui est maintenant un quartier où voilà, un samedi soir, 1h du matin, on croisait drag queen. Et il y a un étonnement positif, mais il y a un peu d'amertume, parce que je crois que j'aurais voulu vivre ça peut-être à l'époque. Donc c'est, je sais pas si c'est très, très positif comme sentiment, cette amertume, cette jalousie, on peut le dire.
Mais c'est devenu maintenant quelque chose, en tout cas, ça s'est amélioré, donc finalement, c'est positif.
Mais oui, c'est super. Et je suis très content maintenant de les quelques fois où je vais à Marseille, de passer par là un samedi soir et de pouvoir passer, et d'avoir la tête haute et mon vernis et mes créoles et de ne pas me poser de questions. Évidemment que c'est positif.
T'es pas le premier dans le podcast à parler de cette scène des drag queens sur le Courjulien. Mathias Chaillot, que tu connais peut-être, au moins de nom, en a parlé. Et j'ai te fait réagir à une de ses phrases. Depuis quelques instants, j'y pense. Il dit dans le podcast, quand quelqu'un me regarde de travers, je sais jamais s'il veut me taper ou s'il veut me baiser. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as pu ressentir aussi à Marseille, face à quelque chose, des regards, des comportements qui pouvaient être un peu violents? Tu peux ressentir ça, toi aussi?
Bah oui, complètement, ouais. Et c'est marrant parce que c'est complètement une scène, même que... Donc là, je vais en venir à mon écriture, en fait, et à mes livres. C'est complètement une scène que j'ai décrite dans Lésion, peut-être aussi dans les trottoirs, mais je pense particulièrement à une scène dans Lésion, où je pose cette question, tu m'aimes, tu me détestes. Dans ce regard-là, il y a effectivement toute la question du désir et de la haine, c'est-à-dire dans ce regard de travers, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe dans ce regard de ce mec que je croise par hasard dans la rue?
Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus fort que ça, de la haine qui est causée parce que le fait de ne pas pouvoir s'assumer?
Est-ce que c'est... Il y a tellement de codes, effectivement, dans ces regards, hein, évidemment. Est-ce que c'est du désir refoulé à un point qui n'est pas encore su? Ou est-ce que c'est du désir complètement su et on sait qu'on regarde de travers parce que c'est comme ça qu'on drague aussi? C'est aussi une possibilité. Et on ne peut pas regarder trop insistement parce qu'on ne voudrait pas que l'autre s'imagine des choses aussi. Ouais. Ça pourrait faire peur, ça pourrait faire réagir. Regarder trop longtemps quelqu'un, il pourrait venir nous voir et poser des questions. Bon, là, c'est un...
Et on pourrait se sentir mal.
On pourrait se sentir mal. Non, c'est un grand classique, hein, de la drague homosexuelle, ce regard qui dure juste assez longtemps, mais pas trop non plus, qui est sujet à interprétation, mais pas trop non plus. Ces regards de drague, que ce soit dans la rue, dans des jardins publics ou dans des lieux plus codifiés, on va dire... Ouais, c'est une question intéressante, ouais.
Tu as dit le mot il y a quelques instants, c'est l'écriture. Et on va y venir. L'écriture, elle n'est pas venue immédiatement chez toi, l'écriture. Tu es d'abord passé peut-être par la photographie aussi. Revenons peut-être sur la photo. Ça a été une sorte de première passion, c'est ça ?
Effectivement, je pense que ma première forme d'écriture, ça a été la photographie. je corresponds pas du tout à l'imaginaire qu'on pourrait se faire de l'écrivain qui a toujours écrit, qui a 13 ans, dévoré des livres, écrivait son journal intime.
Tu lisais beaucoup, j'imagine, quand même.
Alors, pas tant que ça.
Ah oui.
Je pense qu'on pourra peut-être y revenir juste après, mais en fait, la lecture est arrivée très tard.
D'accord.
La première chose, ça a été l'image, en fait. Ça a été la photographie, plus particulièrement. C'est pas pareil, l'image et la photographie.
Mais la photographie, comme image politique chez toi, il y a toujours eu quelque chose, une volonté de vouloir décrire quelque chose, de vouloir montrer quelque chose. La photographie, est-ce qu'elle peut être politisée, justement ?
Je pense que la photographie, à ce moment-là, c'était un moyen à la fois de voir mon désir,
De l'affirmer,
de l'analyser, et peut-être, oui, de le montrer. Et effectivement, c'est politique, puisque ce désir, comme je disais, était en décalage avec...
L'hétéronormativité.
Avec l'hétéronormativité, avec, on va dire, le désir dominant, ou plutôt la manière dont le désir s'exprimait en domination autour de moi. Et donc, la photographie, par son aspect... La photographie, c'est que du désir, en fait. Quand je dis la photographie, c'est que du désir, là, je me positionne plutôt en spectateur, hein. En tout cas. C'est-à-dire, mais en fait, comme toute forme d'art, moi, ce qui m'intéresse dans la photographie, dans le cinéma, dans la littérature, c'est uniquement l'émotion, uniquement ce que ça me fait ressentir, ce que ça me fait comprendre aussi, et ce que ça dit des choses et du monde. Et la photographie, ça a été le premier médium artistique, effectivement. Pourquoi ? Parce que c'est, je sais pas, c'est peut-être...
Plus facile à mettre en œuvre ?
Justement, je voulais pas tomber dans cet écueil de facilité, de la photographie, c'est plus concret, c'est plus simple, c'est plus rapide. Je suis pas sûr. Peut-être que ça vient de ma famille, en fait, finalement, là, cet accès à la photographie très jeune. La photographie a une très grande importance dans ma famille. La trace photographique, l'archive photographique, c'est les seuls qui nous restent dans ma famille où, des deux côtés, on n'a plus de racines.
Ouais.
Et donc, l'image atteste de ce qui a été avant nous. Ma mère a plein d'albums de famille, a plein de traces comme ça. Mon père, moins. Mon père, il est garde-grenier et récemment, on les a sortis, mais très récemment. Mais ma mère, dès l'enfance, on sortait les albums de famille. Elle allait au magasin de photos pour tirer les photos. Elle avait sa carte. Ou même moi, ado, j'allais et il savait que j'étais son fils. Et donc, je pouvais imprimer mes photos gratuitement parce qu'il mettait ses tirages sur sa carte. Même moi, déjà jeune, je tirais des photos... Ma mère a toujours tiré des photos, fait des albums.
Donc, il y avait cette omniprésence finalement de la photographie dans ton enfance, dans ton adolescence. Donc assez facilement, assez logiquement, toi aussi, tu vas vers la photographie.
Je l'expliquerai comme ça.
Ouais.
Il y a une omniprésence de la photographie, même plus généralement de l'image. Chez ma mère, il y a des reproductions de tableaux, quoi. C'est comme ça. Pourtant, on vient pas d'un milieu... où culturellement on a l'habitude d'aller au musée, pas particulièrement, mais l'image, elle a beaucoup, beaucoup d'importance à la maison et en dehors aussi, quand même.
La photographie maintenant, pour toi, c'est plus rare, plus anecdotique, c'est passé au second plan ?
Pas vraiment.
Non ?
Dans la pratique, oui. On va dire que je la pratiquais beaucoup, effectivement, ado, fin ado, et même que j'avais des prétentions professionnelles. C'est-à-dire que moi, j'avais dans l'idée, en fait, de l'étudier, de devenir photographe. Voilà, j'avais ce truc-là, je me renseignais, et quand je me suis inscrit à l'université, c'était dans l'idée même de rejoindre l'école de photo d'Arles, en fait, de passer le concours, parce que c'est un concours, et... de rejoindre les 40 personnes qui, tous les ans, intègrent cette école nationale supérieure de la photographie d'Arles. Arles, c'est pas très loin de Marseille aussi. Peut-être que ça aide, même si c'est très loin culturellement de Marseille, la Camargue, en tout cas pour moi. Mais c'est un autre sujet. C'est sûr que maintenant, je n'ai plus de prétentions professionnelles quant à la photographie. Mais c'est toujours très central. Chez moi, il y a des photos partout.
Il y a beaucoup de photos sur ton Instagram aussi. T'en republies, t'en publies aussi. Peut-être sont-elles de toi. Enfin voilà. L'image, elle est très présente. Et elle est très présente aussi dans ton écriture. Il y a des descriptions qui sont très précises, très ciselées. Beaucoup de choses sont très visuelles dans ton écriture. Alors justement, revenons sur l'écriture. C'est arrivé, tu l'as dit, un petit peu plus tard. Tu n'étais pas un grand lecteur alors ?
J'ai commencé à lire à 18 ans en réalité.
D'accord.
Et on va faire un petit détour. On va revenir à la scolarité. Je pense que ça ne m'a pas du tout aidé hein, à aimer lire.
D'accord.
La scolarité, ce qu'on me donnait à lire, m'insupportait en fait, me déplaisait foncièrement.
Alors, ça a été quoi le déclic ? Il y a une œuvre qui a été déclic ?
Je sais pas, il y a eu plusieurs déclics. On va dire ça alors. On va dire qu'il y a eu plusieurs déclics. J'ai compris qu'à un moment donné, les livres, pour moi, ça pouvait me permettre de comprendre des choses, justement, sur mon désir, voire sur mon existence.
Mmh.
Et un des déclics, ça a été Cocteau. Ça a été le livre blanc de Cocteau.
Mmh.
Je pense que c'est peut-être la première fois de ma vie, déjà, où j'ai recopié des passages dans un cahier. Tellement que ça m'avait marqué. Et c'est la première fois de ma vie où je sentais qu'on parlait de moi. C'est pas la chose la plus importante quand je lis, ou en littérature en général, ou même dans l'art en général. Mais à l'époque, en tout cas, ça a été majeur. C'est-à-dire, ah mais là, en fait, Cocteau, il parle de moi. En parlant de lui, il parle de moi. Donc là, il y a eu un très fort déclic. Un autre déclic, ça a été en regardant les chansons d'amour de Christophe Honoré. Bon, c'est une histoire que je raconte assez constamment, donc encore une fois, celles et ceux qui me connaissent vont même peut-être rire en m'entendant reparler de ça, mais quand je regarde les chansons d'amour pour la première fois, j'ai 7-8 ans, donc c'est assez jeune.
Mmh.
Je le regarde constamment depuis et toujours aujourd'hui, et j'ai un souvenir comme ça, pour le coup, fin d'adolescence, où j'ai le DVD et je mets sur pause à un instant précis où Louis Garrel s'empare de 3 livres et les pose sur le lit, en parlant au personnage d'Erwan qui est en face de lui, qui est joué par Grégoire le Prince Ringuet. Il lui dit, mais dis donc, c'est pas au programme du bac, ça. Et c'est 3 livres PD, évidemment. Dans ces 3 livres, il y a Fou de Vincent, de Guibert, il y a un livre de Dennis Cooper, et un livre de Edmund White. Et donc, je mets sur pause pour voir, parce que quand on regarde le film, on peut pas voir, on les devine à peine. Mais j'ai vu ce film 100 fois, mais je mets sur pause pour noter ces 3 livres. Et j'ai 17-18 ans et je vais dans une librairie et j'achète Fou de Vincent de Guibert. Parce que dans cette librairie, ben, ils n'ont pas Dennis Cooper, ils n'ont pas...
C'est difficile à trouver.
Voilà, effectivement. Mais par contre, ils ont Fou de Vincent de Guibert. Et là, il y a encore un autre déclic. Il y a un déclic, je pense, d'un autre type, d'un autre stade même, encore plus intense.
Quand tu lis Fou de Vincent ?
Quand je lis Fou de Vincent, ouais. C'est encore plus fort que Cocteau, je pense, en tout cas, ce déclic-là.
Parce que c'est une écriture qui est différente, c'est une écriture du réel aussi. C'est plus fort, c'est plus brut aussi.
C'est plus contemporain, ouais. C'est beaucoup plus ancré dans le réel. C'est marrant qu'on parle de déclic, c'est aussi un terme très photographique,
ouais.
Et c'est pas pour rien, je pense que Guibert m'a parlé, parce qu'il a aussi un lien très fort avec les images, avec la photographie, il a beaucoup écrit sur la photographie. Un livre très beau qui s'appelle L'image fantôme, mais aussi il a été journaliste en fait pour des expositions photos. Et l'image a une très forte importance dans sa vie et dans son œuvre. Je pense aussi à son film La pudeur ou l'impudeur, où l'image et la représentation lui-même est absolument centrale. Pour revenir à ce déclic, encore une fois, là, oui, il y a vraiment eu un choc. Et suite à Fou de Vincent, j'ai dû tout lire de Guibert.
Ouais.
Quand je dis que j'ai dû, c'est qu'il y avait vraiment une injonction.
Tu t'es senti obligé.
Obligé par moi-même, hein, évidemment, ouais, mais de me dire, ah, mais c'est possible d'écrire ça, d'être publié comme ça. C'est possible de dire ça. Et j'ai lu ensuite son plus connu, donc c'est pas celui-là.
Qui t'a le plus marqué.
Qui m'a le plus marqué, effectivement. C'est pas celui-là qui m'a le plus marqué et par lequel j'ai commencé, mais c'est À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Je l'ai lu et puis j'ai lu beaucoup de choses de Guibert et après il a fallu lire d'autres choses. Donc par affinité, j'ai commencé à lire des choses qui pouvaient s'y apparenter. Donc j'ai lu Mathieu Lindon un peu et puis Didier Ribon. Donc on est moins dans le domaine de la fiction,
oui.
Là, on est plus, on est dans autre chose. Et puis bon, voilà, c'était il y a quelques années, donc maintenant je lis un peu d'autres choses. Mais je suis arrivé, en tout cas, pour répondre à ta question de tout à l'heure. C'est comme ça que je suis arrivé dans les livres.
Cette écriture du réel, on la retrouve aussi chez toi, très clairement. Je voudrais qu'on revienne sur là où les trottoirs s'arrêtent. Ça a été, moi, mon premier contact avec ton écriture. Politique, clairement, engagée, indéniablement, PD, oui, et Marseille. Est-ce que j'ai dit les quatre choses principales sur le livre ou pas?
Mais oui, il y a tout là. Déjà, quand on dit PD Marseille, je pense qu'on a tout dit.
Pardon de te poser la question, mais je me dois de te la poser, mais je me suis demandé dans quelle mesure c'était pas quelque chose que tu avais vécu, où il n'y avait pas des éléments de toi. Et j'aurais jamais probablement cette réponse-là, et je pourrais pas la donner là dans l'épisode. Mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui était de l'ordre de ton vécu personnel. Parce que on n'écrit pas ça quand on n'a pas vécu des choses. C'est pas possible. On peut pas tout imaginer. Donc il y a forcément des petites choses, aussi infimes soient-elles, qui font forcément partie de toi. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui était de toi, de l'ordre de ton vécu, et qu'est-ce qui était de l'ordre de l'imagination ou de choses qu'on a pu te rapporter, etc. Et c'est en ça que le livre, il est un, complet, deux, extrêmement bien écrit, ciselé, pointu, extrêmement travaillé, et chaque mot est sous-pesé. Je choisis ce mot-là parce que chaque mot est à sa place. On ne peut pas le remplacer par un autre, sinon le sens se vide.
C'est quelque chose qu'on m'a dit assez rarement finalement, mais quelquefois quand même, on n'écrit pas quelque chose comme ça sans le réel. Et puis bien sûr, on parle un peu de ma vie, on comprend que j'ai grandi à Marseille, le narrateur des trottoirs a aussi grandi à Marseille, les liens sont vite faits. Moi je le revendique très clairement, je dis très clairement, c'est de l'autofiction, c'est le terme qu'on utilise à défaut d'autre chose, moi il me convient à peu près ce terme-là.
J'aimerais qu'on revienne sur une phrase qui n'est pas extraite de Là où les trottoirs s'arrêtent, mais de Pas dire, qui est ton premier ouvrage, pour le coup. Je voudrais que tu nous l'expliques, cette phrase. Je vais la lire, parce que je la trouve toute particulière. Et là aussi, je me demande si on ne peut pas écrire ça quand on ne l'a pas vécu. Je suis le seul qui l'aime. Je remplace tous les autres. Je l'aime d'un amour de mère, d'un amour de père, de fils aussi et de frère et d'amis. D'un amour d'amant intégral. C'est une somme. Et c'est difficile à assumer d'aimer autant quelqu'un. Tu as déjà été à ce point amoureux.
Ah oui, complètement, ouais.
Cet amour entier.
C'est marrant que tu parles de Pas dire parce que ça fait un peu le lien avec ma découverte de Guibert, parce qu'en fait, c'est mon tout premier livre, Pas dire, et c'est un hommage tout à fait clair et assumé à Guibert et d'ailleurs à Fou de Vincent. Il reprend à Fou de Vincent cette construction antéchronologique qui commence par la fin et qui remonte comme ça le cours du temps. Ça se passe à la fin des années 80, début des années 90 à Paris. Il y a un personnage qui s'appelle Hervé, un autre qui s'appelle Mathieu. Pas dire, c'est un hommage complètement à Guibert et à cette période-là. Et j'y ai injecté dans donc cette trame chronologique, dans ce lieu qui est Paris, donc des choses absolument fictives. Hein. À la fin des années 80, j'étais pas
Oui,
né.
voilà.
Et j'ai.
Mais tu y as mis des choses extrêmement contemporaines dedans. En tout cas, c'est pas possible, il y a du vécu.
J'y ai placé, j'y ai injecté, on va dire. À ce moment-là, c'était ma seule manière, je pense, de parler de moi. Encore à ce moment-là, après, avec les trottoirs et les lions, j'ai réussi, je pense, à parler de moi et à situer ça au moment où je l'ai vécu à Marseille. Mais à ce moment-là, le seul moyen, c'était le déplacer chronologique, temporellement, le déplacer temporellement et géographiquement. Et j'y ai injecté, effectivement, des choses absolument vécues et réelles. Et ouais, c'est possible d'aimer autant quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est ce que je vivais. Où on aime tellement l'autre qu'on se renie et qu'on est prêt à accepter des choses qui aujourd'hui nous paraissent complètement folles.
Avec le recul.
Avec le recul. Oui, c'est possible, oui. Bon, c'est un peu un cliché, pour reprendre un terme photographique.
Mais ça, c'était toi à un instant donné.
Oui, pendant longtemps même. Hein. Pendant longtemps, non. Mais Oui, j'ai traversé ce moment où, où l'amour était au-delà de tout, ouais. On va même parler de dévotion, quoi. Enfin, il y avait quelque chose.
On sort indemne d'une relation comme ça.
Non, je pense pas, mais c'était accepté de ma part, hein. J'ai consenté complètement à cette relation d'une très forte intensité, très douloureuse dans le moment.
Peut-être un peu unilatérale.
Pas unilatérale en termes de sentiments.
Mais de force, d'intensité, justement.
Pas non plus unilatérale en termes de force, mais unilatérale en termes de ce que ça a engagé. Du corps et de la souffrance, c'est-à-dire on n'en sort pas indemne, ouais, et on s'en rend pas compte au moment où on le vit.
En tout cas, toi, tu n'en es pas sorti indemne.
Ouais.
Tu travailles avec les éditions Blast. C'est une qui se définit eux-mêmes comme une petite maison d'écriture engagée. L'engagement, justement, je voulais y revenir parce que c'est pas anodin chez toi, c'est pas anodin dans ton écriture également. Ton écriture, je le disais, elle est évidemment politique. Il y a clairement un engagement social et sociétal, et donc politique, dans ton écriture. Il arrive quand cet engagement chez toi ?
Je pense que ça arrive conjointement à la réalisation de mon désir, qui est, comme je disais, alors défini différent. Et c'est de cette différence-là, je pense, que vient cet engagement, et qui transparaît à travers l'écriture. Comme je disais, effectivement, je pense que je fais quelque chose qui appartient au registre, on va dire, de l'autofiction. Parce que je pense que quand on crée à partir de soi, donc à partir d'une situation, à partir d'un vécu. Et moi, je serais absolument incapable d'écrire de l'imaginaire, d'écrire du romanesque. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. L'imaginaire et le romanesque, j'en lis, je peux aimer ça. Moi, je ne sais pas le faire. Et je pose le postulat que, pour moi, le romanesque et l'imaginaire, il y a une forme d'échec. Qu'il faut parler du réel, c'est en tout cas ce que je pense, et c'est ce que je fais. Et je ne vois pas comment parler du réel autrement que parler de mon réel. Et donc ça, c'est raisonnement politique. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience d'à partir d'où est-ce qu'on écrit, de quelle situation. D'à partir d'où est-ce qu'on est énonciateur d'un discours, parce que qu'on le veuille ou non, on est énonciateur d'un discours quand on écrit un livre, quand on fait un film.
Pour toi, un écrivain est et doit s'engager dans la vie publique politique, on va dire.
Je pense pas que je puisse dire que pour moi un écrivain doit faire quelque chose. D'accord. Voilà.
Mais pour toi, ça fait partie de ce qui est intrinsèquement ton engagement. En tout cas, l'écriture, pour toi, elle doit être engagée dans cette description du réel, et donc, finalement, dans la description de la réalité, et donc, finalement, porter une parole.
Parce que voilà, en fait, par contre, ce que je peux dire, c'est que les écrivains, qu'ils le veuillent ou non, portent un discours sur des choses et sur la société. Et donc, qu'ils le veuillent ou non, ont une portée politique, ont une force politique, parlent du réel, changent le réel aussi. Par leur écriture. C'est pour ça que je suis publié chez Blast, parce qu'il y a cette conscience, cette volonté, cette connaissance totale des savoirs situés et de la fonction résolument politique et militante de la littérature, des livres. Ouais, c'est ça.
Il y a eu 3 romans pour l'instant. En plus, peut-être aborder aussi ce journal d'écriture que tu as fait paraître, le journal d'écriture de Là où les trottoirs s'arrêtent. Et maintenant, tu travailles déjà à la suite, j'imagine.
Là, j'ai été dans un projet, effectivement, qui est très nouveau pour moi, qui est une commande. J'ai dû écrire une pièce de théâtre pour...
Qui est un travail radicalement différent.
Qui est un travail radicalement différent et... Très nouveau pour moi, à deux points de vue, parce que déjà c'est du théâtre, c'est la première fois que j'en écrivais.
Et des nouveaux codes.
et des nouveaux codes parce que c'est pas les mêmes codes littéraires et aussi c'est pas les mêmes codes de création parce que j'ai dû travailler collectivement. Alors bien sûr, quand je travaille avec un éditeur, une éditrice, on travaille collectivement, mais c'est un travail quand même qui est très solitaire. Là, le format d'écriture de plateau, c'est très nouveau pour moi et c'était
enrichissant.
C'est très enrichissant. Je viens de finir ce projet il y a 2 semaines à peine, c'est-à-dire que la pièce a été jouée il y a 2 semaines et le texte sera édité en septembre prochain, donc en septembre 2024. Et donc voilà, je suis encore un peu là-dedans même. Et en même temps, quand j'ai dit autour de moi que j'allais écrire du théâtre, il y a eu une réaction assez globale de la part de mes proches ou de gens qui m'ont lu, il y a eu presque une absence d'étonnement, alors que moi j'étais très étonné hein, qu'on me demande d'écrire du théâtre, comme je disais, j'en avais jamais. Qu'on vient de me chercher déjà. J'étais assez étonné, c'est vrai, et surpris, en bien. Et surtout, pour du théâtre, comme j'en avais jamais, jamais écrit. Et beaucoup de gens autour de moi m'ont dit c'est pas étonnant. En fait, ton écriture, elle est très théâtrale. Tes livres, ils ont un langage qui peut être théâtral, oral. Bon, je sais pas si le théâtre est oral, mais bon, en tout cas. Tout ça pour dire qu'il y a eu une absence d'étonnement, pour le coup, autour de moi. Moi, j'ai été étonné, voire un peu flippé même, d'ailleurs, parce que je me suis dit... bon, j'ai dormi penché un peu là-dessus, là, quand même. Effectivement, comme je disais, moi, je viens plutôt de la littérature contemporaine et du roman, ouais. De l'autofiction, de la sociologie aussi. Assez peu du théâtre, en fait.
Et pourtant, tout s'est bien passé. La pièce a été montée. Et le texte sera publié, donc véritable victoire finalement. Tu retenteras l'expérience du théâtre ?
C'est une victoire dans le sens aussi où ça m'a permis de m'intéresser à la littérature sous un autre angle, sous cet angle vivant, incarné. Incarné, c'est-à-dire en chair et en os. Il y a quelque chose de très, très surprenant et très beau, très émouvant d'écrire quelque chose et de le voir jouer devant soi par des comédiens, des comédiennes. Et ça me donne véritablement envie de refaire ça, en fait. Ça, c'est certain, ouais.
Alors, le prochain livre sera donc quoi ? Une pièce de théâtre ? Un recueil peut-être de poésie, je ne sais pas ? Un autre roman ?
La prochaine publication ?
En tout cas,
c'est ça. Le prochain livre, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas encore. Il y a plusieurs choses qui sont en chantier, on va dire.
Comment ça se passe ? T'as plusieurs ébauches dans ton ordinateur personnel ? T'as plusieurs textes sur lesquels tu travailles ?
Aujourd'hui, c'est ça. Ouais. C'était pas le cas il y a encore quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a effectivement un recueil de poésie qui est en attente, on va dire, qui est au fin fond d'un dossier. Bon, on va voir ce qu'il va devenir. J'ai suite à cette représentation théâtrale, eu le désir d'écrire sur autre chose, aussi quelque chose de théâtral, je pense. Le metteur en scène qui m'a mis en scène m'a fait découvrir un dramaturge, en fait, qui s'appelle Armand Gatti, et j'ai lu un de ses textes qui m'a tout de suite donné envie d'écrire quelque chose de toujours, évidemment, personnel, etc., mais... voilà, d'écrire autre chose d'aussi théâtral. Je ne dirais pas plus de choses là-dessus. Pour l'instant, c'est tout à fait, en plus, nouveau dans ma tête. Donc, embryonnaire, complètement. Voilà, après, pour moi, mon cycle d'écriture, en tout cas sur Marseille, pour moi, il est, je ne sais pas s'il est terminé, mais...
En pause ?
En tout cas, il est en pause. Là, je ne me vois pas à nouveau écrire. Voilà, effectivement, les trottoirs et les ions se répondent. Les deux sont situés à Marseille avec un narrateur commun, des personnages communs. Et je dis souvent que c'est un diptyque. Donc, pas une série, pas un triptyque. Je pense que l'adolescence à Marseille, je pense que c'est bon. En tout cas, sous cette forme-là.
Tu parles d'une série, mais on a vu beaucoup de romans ou de livres adaptés en série, justement. Tu aimerais ? Si on te propose d'adapter justement ce diptyque-là, là où les trottoirs s'arrêtent et les ions, en série, est-ce que tu penses que ça ferait une bonne série ?
Ah bah y a forcément hein, le fantasme de l'écrivain qui aimerait voir ses œuvres portées sur l'écran. Série, je sais pas, plutôt film. Je suis plus attaché au cinéma et au film, hein. c'est peut-être un peu idiot, mais... Et c'est peut-être... Le cinéma, c'est ce qui m'intéresse... Le plus, voire même en ce moment, peut-être même plus que la littérature. Mais c'est un monde que je connais absolument pas. Et je pense que pour être porté à l'écran, c'est des délais que je connais pas, des financements que je connais pas, enfin que je connais pas, que je vois de loin et qui me donnent pas très envie. Je pense que le
Très
théâtre,
complexe.
ça a l'air très complexe, ouais. Je pense que le théâtre peut être aussi une manière de voir et d'entendre plus facilement. Donc c'est pour ça aussi que je m'y intéresse particulièrement. Mais en ce moment, j'ai ce désir-là de voir incarner ce que j'écris. Je pense que voilà, cette expérience théâtrale là récemment m'a donné cette envie-là. Donc que ce soit sur les plateaux ou à l'écran, c'est le même désir finalement, c'est de voir et d'entendre. Ouais.
Tu vis maintenant à Paris, est-ce que Paris pourrait être, comme Marseille l'a été, le théâtre d'une prochaine œuvre?
Je viens d'arriver à Paris effectivement parce que j'ai quitté Toulouse où j'ai vécu 2 ans. Donc j'ai envie de dire en toute logique
Toulouse.
que peut-être avant Toulouse, je sais pas si j'écrirai sur Toulouse ou sur ma vie à Toulouse ou sur ce que j'y ai vécu. Il me faut toujours un temps aussi hein, entre ce que je vis et ce que j'écris dessus. Donc je peux pas te dire. J'ai l'impression que je suis encore trop en mouvement pour écrire ce qui s'est passé ces derniers mois-là.
Tu connais le principe du podcast, la dernière séquence, c'est la tienne. Ça s'appelle le mot de la fin. C'est vraiment ton moment. C'est le mot de la fin. Et c'est à toi.
Alors, devenir écrivain, c'est ça que tu disais il y a quelques instants. Effectivement, c'était pas écrit, donc c'est une belle formule. Pour un écrivain. Je sais pas si je suis un écrivain aujourd'hui, mais c'était pas écrit, c'était pas du tout acté. Ça s'est fait un peu comme ça. Vraiment comme ça. C'est-à-dire que je connaissais personne qui écrivait autour de moi. Je connaissais aucun éditeur, aucun journaliste, aucun rien. J'ai une famille de fonctionnaires. Personne travaille dans la culture. Il y a des livres chez moi. On va voir des films. En famille, donc ça existe, mais on n'est pas acteur de ce monde-là. Et puis voilà, il y a eu ce décalage, il y a eu cette différence qui a fait que j'ai dû lire pour comprendre. Et puis immédiatement après cette lecture, il a fallu aussi écrire pour comprendre, parce qu'il fallait noter ce que je lisais, analyser ce que je lisais, c'était pas facile en fait. D'apprendre à lire à 18 ans. Et cette écriture du quotidien, de mes lectures, de ma vie, a, à un moment donné, formé quelque chose de publiable, on va dire. C'est-à-dire que d'autres personnes que moi, d'autres personnes que les gens autour de moi pouvaient lire. Et comme je disais, ça s'est fait comme ça. J'ai envoyé, et puis on m'a appelé, et puis ça a été imprimé. Et les choses s'enchaînent depuis avec un naturel. Et puis aujourd'hui, je suis là, je discute avec toi, et tu penses que je suis écrivain, et puis et les gens pensent que je suis écrivain, et je suis interviewé en tant que tel. Je suis aussi interviewé en tant que PD, sûrement, et c'est très bien. En tant que Marseillais, un peu. Écrivain PD Marseillais, c'est bien ça. Ça me convient en tout cas. Et ça dit quand même beaucoup de choses, ces 3 mots de moi, ouais. Donc on va terminer sur ce dernier mot de cette formule alors. Écrivain PD Marseillais, Marseillais.
Travailleur du texte.
Travailleur du texte. Cette formulation un peu facile qui est
Poétique.
un jeu de mots poétique alors, ouais. Qui est. Quoi, dans ma biographie Instagram? Bon. C'est assez marrant, c'est assez facile, comme je disais. Mais ça a du sens aussi. Ça a du sens parce que y a du boulot aussi, en fait. Il y a du travail. C'est pas comme ça. Ça tombe pas nulle part, je pense. Un travail privilégié, parce que écrire, c'est quand même une chance d'avoir le temps aussi d'écrire. Le temps que j'ai eu pour écrire, c'était pas un temps très heureux, hein. C'était un temps où je faisais pas grand-chose en fait, où j'ai eu la chance de pouvoir pas faire grand-chose aussi, où j'ai pu rester chez ma mère et me morfondre, mais où j'ai bossé quand même parce que je voulais faire quelque chose de bien. Et travailleur du texte, bien sûr, c'est un jeu de mots avec travailleur du sexe, dont je parle aussi dans mes textes. C'est aussi pour ça j'utilise pas cette formule de manière désinvolte ou désintéressée.
Et PD, pourquoi pas gay?
Ça n'a aucun sens, ce mot, pour moi, gay. Ça veut rien dire, en fait.
PD en a plus?
Complètement. C'est comme ça qu'on m'appelait, avant même que je m'appelle comme ça. C'est comme ça qu'on me nommait, qu'on me définissait. Je vais pas faire un laïus assez habituel sur la réappropriation de l'insulte. C'est même pas trop comme ça que je le vois. Pour moi, c'est même pas que je me réapproprie l'injure. C'est plutôt que ça me définit, et ça définit les choses qui s'y rapportent. Parce que je définis aussi des moments, comme des moments PD, ou des livres, ou des...
Des soirées.
Des soirées.
Des lieux.
Des lieux. C'est le mot qui veut tout dire. C'est pas gay, c'est pas LGBT, c'est pas queer. C'est PD. Ouais. Il n'y a que ce mot-là que je connais.
Alors c'est quoi ta définition de PD?
C'est un mec qui aime les mecs, en fait. Mais pas que. Ça fait partie d'une culture aussi. Il y a un ancrage dans une histoire bien plus longue que ce qu'on pourrait croire ou que ce qu'on veut nous faire croire. C'est un mot qui appartient à un langage, qui appartient à un registre, qu'on pourrait dire vulgaire. Ça choque davantage, même dans nos milieux ou dans les milieux PD. Parfois, quand je l'utilise à répétition, c'est un mot qui peut agresser l'oreille. C'est un mot où, parfois, ça m'est arrivé, on me dit « Mais pourquoi tu utilises ce mot? Ça me dérange. » Et j'ai aucun problème à expliquer pourquoi j'utilise ce mot et à expliquer pourquoi c'est pas dérangeant. Ni offensant. Ni violent. Parce que c'est moi qui le dis. C'est tout ça à la fois. C'est... Ça amène tout un bagage de codes, de livres, de films, de moments de vie. Ouais.
Merci Baptiste.
Ben merci à toi.
Voilà, c'est tout pour cette très belle et très intime rencontre avec Baptiste Théry-Guilbert, l'écrivain. Je vous rappelle que ses trois romans, à savoir « Pas dire »,« Là où les trottoirs s'arrêtent » et « Lésions » sont disponibles aux éditions Blast, un petit peu partout, bien sûr, dans les bonnes librairies. Je vous invite à y prêter une oreille ou en tout cas des yeux très attentifs. N'hésitez pas. Je vous souhaite également une très belle semaine. On se retrouve, bien sûr, sur notre compte Instagram. Et puis, si vous souhaitez poser vos questions à Baptiste Théry-Guilbert, n'hésitez pas à le faire directement sur son compte Instagram. Bien sûr, il se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve très bientôt.